From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities.
La musique de cette session est interprétée par un chœur combiné de l'Institut de religion d'Orem en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session de la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet et les nombreuses autres qui sont réunies dans les centres de pieux dans diverses parties du monde où elle est diffusée par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assistent à cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composite de l'Institut d'Orem en Utah, sous la direction de Ryan Eggett, avec Bonnie Goodliffe et Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira la réunion en chantant « Gloire au Dieu Tout-Puissant ». Ensuite, Yann S. Arden, des 70, fera la prière d'ouverture. Après cela, le chœur chantera « I lived in heaven ».
Notre Père qui est dans les cieux, nous sommes reconnaissants d'être réunis ici, réunis en différents endroits à travers le monde, pour écouter et entendre. Nous sommes reconnaissants d'être ici, avec un prophète vivant en présence du président Monson. Nous l'aimons. Nous prions que tu puisses continuer à le soutenir. Nous te remercions, Père, pour la préparation des orateurs. Nous prions que leurs prières, méditations et préparations puissent porter leurs fruits. Tandis que nous sommes touchés par l'Esprit et que nous écoutons leurs paroles. Père, nous te remercions pour notre Sauveur, Jésus-Christ, son sacrifice expiatoire. Aide-nous à le suivre, à être de bons disciples du Christ. Nous prions pour ces choses et le faisons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Président Uchtdorf va maintenant vous présenter le nom des officiers généraux de l'Église et les 70 interrégions pour un vote de soutien. Après le vote de soutien, Kevin R. Jurgensen, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport annuel. Il sera suivi de Prook P. Hales, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport statistique de l'Église pour l'année 2013. Président Uchtdorf. Frères et sœurs, il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Henry Bennion Ehring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Urdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des Douze Apôtres et les membres suivants du dit collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Hawks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Ailes, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever, avec des remerciements sincères, leur tête Arcacalister de son appel d'autorité générale et de membres de la présidence des collèges des 70. Que ceux d'entre vous qui veulent se joindre à nous pour lui exprimer leurs remerciements le manifestent. Il nous est proposé de soutenir Lynn G. Robbins comme membre de la présidence des collèges des 70. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de relever, à dater du 1er mai 2014, les 70 d'interrégion suivants.
Pedro E. Abularok, Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us,
que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de relever, en leur manifestant nos remerciements, Russell T. Osgethorpe, David M. McConkie et Matthew O. Richardson de la présidence de l'École du Dimanche. Nous relevons également tous les membres du Bureau général de l'École du Dimanche. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leurs remerciements à ces frères et sœurs pour leur service et leur dévouement remarquable le fassent. Il nous est proposé de soutenir, comme nouveaux membres du premier collège des 70, Ching Hong Sang Wong, Jörg Klebingat Et comme nouveau membre du deuxième collège 70, Larry S. Catcher et Hugo E. Martinez. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Il nous est proposé de soutenir comme un nouveau 70 d'interrégion.
Julio César Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor, please.
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir Ted R. Callister comme nouveau président de l'école du dimanche, avec John S. Tanner comme premier conseiller et Devin G. Durant comme deuxième conseiller. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Nous faisons remarquer que frères Tanner et Durant sont actuellement présidents de mission et ne sont donc pas présents au centre de conférence. Ils commenceront leur service officiel dans la présidence générale de l'école du dimanche après leur relève en juillet 2014 de leur appel de président de mission. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et président général d'auxiliaire actuel. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y avait des avis contraires, veuillez le manifester. Merci, frères et sœurs, de votre vote de soutien et de votre foi continuelle et de vos prières. Nous invitons les autorités générales qui viennent d'être appelées à venir prendre place sur l'estrade.
It's a long walk. As announced by the Jurgensen.
Comme ça a été annoncé, frère Jurgensen va maintenant lire le rapport du département d'appurement.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le conseil d'affectation de la dîme composé de la première présidence, du collège des douze apôtres et de l'épiscopat président qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Les départements de l'Église doivent dépenser les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. Le département d'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés et est indépendant de tous les autres départements de l'Église, a la responsabilité de faire des appurements dans le but de fournir une assurance raisonnable concernant les contributions reçues et les dépenses faites, et aussi de protéger les biens de l'Église. Suite à nos vérifications, le département d'appurement de l'Église estime que, dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2013 ont été enregistrées et administrées conformément aux pratiques comptables appropriées, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. L'Église applique les habitudes enseignées à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner en cas de besoin. Respectueusement, le département d'appurement de l'Église, Kevin N. R. Jorgensen, directeur général. Pour l'information des membres de l'Église, la première présidence a publié le rapport statistique suivant sur la croissance et la situation de l'Église au 31 décembre 2013. Le nombre total de pieux était de 3050, des missions de 405, des districts de 571 et des paroisses et des branches de 29253. La population totale de l'Église était de 15 082 028. Le nombre des nouveaux enfants inscrits en 2013 était de 115 486 et celui des convertis baptisés de 282 945. Au 31 décembre, il y avait 83 035 missionnaires à plein temps et 24 032 missionnaires des services de l'Église. En 2013, le temple de Tegucigalpa au Honduras a été consacré. Le nombre de temples en service à la fin de l'année était de 141.
We will now be pleased to hear from Elders Russell M. Nelson.
Nous allons maintenant entendre Russell M. Nelson et Richard J. Scott du Collège des 12 apôtres.
Dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, nous exprimons nos plus profonds sentiments d'amour et de gratitude pour vous. Nous sommes reconnaissants des occasions que nous avons de vous rencontrer. Lors d'un récent voyage en avion, notre pilote a annoncé que nous allions rencontrer des turbulences pendant la descente et que tous les passagers devraient attacher leurs ceintures de sécurité. Comme prévu, les turbulences se sont fait sentir. Nous avons été fortement secoués de l'autre côté de l'allée et deux rangs derrière moi, une femme terrifiée a paniqué. À chaque trou d'air effrayant et à chaque secousse, elle hurlait. Son mari essayait vainement de la calmer. Ses cris hystériques ont continué jusqu'à ce que nous soyons sortis de cette zone de turbulence et que nous ayons atterri sains et saufs. Pendant sa période d'angoisse, j'étais désolé pour elle. Comme la foi est le remède à la peur, j'aurais voulu pouvoir fortifier sa foi. Plus tard, comme les passagers quittaient l'avion, le mari de cette femme m'a dit « Je suis désolé que ma femme ait été si terrifiée. Le seul moyen que j'ai trouvé pour la calmer a été de lui dire que frère Nelson était dans l'avion, elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Je ne suis pas sûr que ma présence à bord de cet avion ait pu lui apporter un quelconque réconfort. Mais je dirais que l'une des réalités de la condition mortelle est que notre foi sera testée et éprouvée. Ces épreuves se produisent parfois quand nous faisons face à ce qui semble être des situations de vie ou de mort. Pour cette femme effrayée, un avion ballotté en tous sens était l'un de ces moments de vérité que nous devons affronter avec la force de notre foi. Quand nous parlons de la foi, cette foi qui déplace les montagnes. Nous ne parlons pas de la foi en général, mais de la foi au Seigneur Jésus-Christ. On peut affermir sa foi au Seigneur Jésus-Christ en apprenant plus sur lui et en pratiquant notre religion. La doctrine du Christ a été conçue par le Seigneur pour nous aider à augmenter notre foi. Toutefois, dans l'usage courant actuel, le mot « religion » peut avoir différentes significations pour différentes personnes. Le mot « religion » veut littéralement dire « lié encore » ou « rattaché à Dieu ». Nous pourrions nous demander « sommes-nous fermement liés à Dieu de manière à ce que notre foi se voit ?» Ou sommes-nous en fait attachés à autre chose? Par exemple, j'ai entendu des discussions les lundis matins sur des rencontres sportives professionnelles qui s'étaient déroulées le dimanche précédent. Pour certains de ces fervents supporters, je me suis demandé si leur religion pouvait ne les rattacher qu'à un ballon qui rebondit. Nous pourrions, chacun, nous demander où est notre foi. Est-elle dans une équipe, dans une marque, dans une célébrité? Même les meilleures équipes peuvent perdre. Les célébrités peuvent décliner. Il n'y a qu'une personne en qui votre foi sera toujours garantie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez montrer votre foi. Dieu a déclaré dans le premier de ses 10 commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il a aussi dit, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. » Pourtant, trop de personnes ne regardent que leur compte en banque pour trouver la paix ou prennent des êtres humains comme modèle à suivre. Les médecins, les académiciens et les politiciens sont souvent placés devant une épreuve de leur foi. Pendant qu'ils poursuivent leurs objectifs, vont-ils montrer ou cacher leur religion? Sont-ils rattachés à Dieu ou à l'homme? J'ai eu ce genre d'épreuve il y a des décennies quand l'un de mes collègues à l'école de médecine m'a réprimandé pour ne pas avoir séparé ma connaissance professionnelle de mes convictions religieuses. Il a exigé que je ne mélange pas les deux. Comment aurais-je pu le faire? La vérité est la vérité. Elle est indivisible et on ne peut pas en mettre de côté une partie quelconque. Que la vérité vienne d'un laboratoire scientifique ou par la révélation, toute vérité vient de Dieu. Toute vérité fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Cependant, on me demandait de cacher ma foi. Je ne me suis pas soumis à la demande de mon collègue. J'ai montré ma foi. Tous les métiers exigent une précision rigoureuse. Les érudits chérissent leur liberté d'expression. Mais il ne peut y avoir de liberté totale si les hommes décrètent qu'une partie de la connaissance de quelqu'un est hors limite. La vérité spirituelle ne peut pas être ignorée, en particulier les commandements divins. Quand on respecte les commandements divins, cela apporte chaque fois des bénédictions. Quand on enfreint les commandements divins, cela entraîne chaque fois une perte de bénédictions. Les problèmes abondent parce que le monde est peuplé de gens imparfaits. Leurs objectifs et leurs désirs sont fortement influencés par leur foi ou par leur manque de foi. Beaucoup donnent la priorité à d'autres choses qu'à Dieu. Certains contestent la pertinence de la religion dans la vie moderne. À toute époque, aujourd'hui comme hier, il y a des gens qui se moquent du libre exercice de la religion ou qui le contestent. Il y en a même qui accusent la religion de tous les maux du monde. Il est vrai qu'il y a eu des périodes où des atrocités ont été commises au nom de la religion. Mais pratiquer la religion pure du Seigneur, ce qui signifie s'efforcer de devenir un vrai disciple de Jésus-Christ, est un mode de vie et un engagement quotidien qui nous permettront d'être divinement guidés. En mettant en pratique votre religion, vous exercez votre foi. Vous montrez votre foi. Le Seigneur savait que ses enfants auraient besoin d'apprendre comment le trouver, car étroite est la porte, dit-il, et resserré le chemin qui mène à l'exaltation. Il y en a peu qui les trouvent. Les Écritures donnent l'un des meilleurs moyens de trouver le chemin et d'y rester. La connaissance spirituelle offre aussi une protection. Par exemple, tout au long de l'histoire, des infections comme la fièvre puerpérale ont coûté la vie à de nombreuses mères et de nombreux enfants innocents. Pourtant, l'Ancien Testament, écrit il y a plus de 3000 ans, contenait les principes corrects pour traiter les patients infectés. Beaucoup de gens sont morts parce que les hommes, en quête de connaissance, n'ont pas tenu compte de la parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, que manque-t-il à notre vie si nous apprenons toujours, mais ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité? Nous pouvons obtenir une grande connaissance par les Écritures et recevoir l'inspiration grâce aux prières de la foi. Cette façon de procéder nous aidera dans nos décisions quotidiennes. C'est surtout quand les hommes créent et imposent des lois que nous devons nous en tenir aux lois de Dieu. Face à des sujets à controverse, nous devons d'abord rechercher l'aide de Dieu. Nous devons appliquer les Écritures à nous pour notre profit et notre instruction. Le danger rôde quand nous essayons de nous cloisonner en utilisant des expressions telles que « ma vie privée » ou même « je fais de mon mieux ». Si nous essayons de compartimenter notre vie, nous ne nous élèverons jamais à la pleine stature de notre intégrité personnelle, ni ne serons tout ce que notre véritable personne pourrait être. La tentation d'être populaire peut faire que l'opinion publique devienne plus importante que la parole de Dieu. Les campagnes politiques et les stratégies de marketing utilisent abondamment les sondages d'opinion pour élaborer leurs plans. Les résultats de ces sondages sont instructifs. Mais ils peuvent difficilement être utilisés comme base pour justifier la désobéissance au commandement de Dieu. Même si tout le monde le fait, le mal n'est jamais le bien. Le mal, l'erreur et les ténèbres ne seront jamais la vérité, même s'ils sont populaires. Un avertissement spirituel déclare « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Après la Première Guerre mondiale, une chanson osée est devenue populaire. Elle valorisait l'immoralité et affirmait que 50 millions de personnes ne pouvaient avoir tort. Mais en fait, 50 millions de personnes peuvent avoir tort, complètement tort. L'immoralité sera toujours l'immoralité aux yeux de Dieu qui jugera un jour tous nos actes et tous nos désirs. Comparer la peur et l'incrédulité si répandues dans le monde d'aujourd'hui à la foi et au courage de ma fille bien-aimée, Émilie, qui vit maintenant de l'autre côté du voile. La vie quittait son corps, rongé par le cancer. Elle pouvait à peine parler. Mais un sourire aux lèvres, elle m'a dit, ne t'inquiète pas pour moi, papa. Je sais que tout ira bien. Dans ce tendre moment, la foi d'Emily était visible, éclatante, exactement quand nous en avions le plus besoin. Cette magnifique jeune mère de 5 enfants avait pleinement foi dans son Père Céleste, dans son plan et dans le bien-être éternel de sa famille. Elle était fermement rattachée à Dieu. Elle était totalement fidèle aux alliances faites avec le Seigneur et avec son mari. Elle aimait ses enfants et elle était en paix en dépit de leur séparation imminente. Elle avait foi en son avenir et dans le leur aussi, parce qu'elle avait foi en notre Père Céleste et en son Fils. En 1986, le président Munson a dit, « Bien entendu, nous devrons affronter la peur, connaître les moqueries et rencontrer l'opposition. Ayons le courage de défier le consensus, le courage de prendre la défense des principes. C'est le courage et non le compromis qui nous vaut le sourire d'approbation de Dieu. Souvenez-vous que tous les hommes ont leurs craintes, mais ceux qui affrontent leurs craintes avec foi ont du courage aussi. Le conseil du président Munson est intemporel. Je vous supplie donc, mes frères et sœurs, jour après jour, sur le chemin de votre destinée éternelle, d'augmenter votre foi. Proclamez votre foi. Montrez votre foi. Je prie pour que vous soyez fermement rattachés à Dieu, que ces vérités éternelles soient gravées dans votre cœur pour toujours. Et je prie pour que tout au long de votre vie, vous montriez votre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
As I have pondered my duty to share the gospel,
en réfléchissant à mon devoir de faire connaître l'Évangile, j'ai pensé aux êtres qui me sont chers, dont la tendre influence m'a permis de trouver le chemin désigné par Dieu, qui m'a aidé dans ma progression spirituelle. À des moments cruciaux de ma vie, mon Père Céleste m'a béni en mettant sur mon chemin quelqu'un qui s'est soucié suffisamment de moi pour m'inciter à choisir la bonne direction. Il a mis en pratique ces paroles du Sauveur. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Quand j'étais jeune, mon père n'était pas membre de l'Église, et ma mère était devenue non-pratiquante. Nous vivions à Washington, D.C., et les parents de ma mère vivaient à 4000 kilomètres de là, dans l'État de Washington. Quelques mois après mon 8e anniversaire, ma grand-mère Whittle a traversé le pays pour venir nous voir. Grand-mère s'inquiétait de ce que ni moi ni mon frère n'étions baptisés. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à mes parents à ce sujet, mais je sais qu'un matin, elle nous a emmenés, mon frère et moi, dans un parc et nous a fait part de ce qu'elle ressentait sur l'importance d'être baptisée et d'assister régulièrement aux réunions d'une église. Je ne me souviens pas de ce qu'elle a dit précisément, mais ses paroles ont eu un écho dans mon cœur et mon frère et moi nous sommes fait baptiser rapidement. Grand-mère a continué à nous soutenir. Je me rappelle que chaque fois que mon frère ou moi avions un discours à faire à l'église, nous lui téléphonions pour qu'elle nous donne des idées. Quelques jours après, un discours manuscrit arrivait par courrier. Après quelque temps, ces suggestions ont été remplacées par une esquisse qui réclamait plus d'efforts de notre part. Grand-mère a fait preuve de ce qu'il fallait exactement comme courage et comme respect pour aider notre père à prendre conscience de l'importance de nous conduire à l'église pour nos réunions. Elle nous aidait de toutes les manières convenables possibles à ressentir le besoin d'avoir l'évangile dans notre vie. Le plus important est que nous savions que grand-mère nous aimait et qu'elle aimait l'évangile. Elle était un exemple merveilleux. Comme je le suis reconnaissant du témoignage qu'elle m'a donné quand j'étais très jeune. Son influence a changé le cours de ma vie en apportant un bien éternel. Plus tard, au moment où j'allais avoir mon diplôme universitaire, je suis tombé amoureux d'une très belle fille, Janine Watkins. Je pensais qu'elle commençait aussi à avoir de profonds sentiments à mon égard. Un soir, que nous parlions de l'avenir, elle a habilement introduit dans la conversation une déclaration qui a changé ma vie pour toujours. Elle a dit, « Quand je me marierai, ce sera au temple avec un ancien missionnaire fidèle. » Avant cela, je n'avais pas beaucoup pensé à faire une mission. Ce soir-là, ma motivation sur l'éventualité d'une mission a changé radicalement. Je suis rentré à la maison sans pouvoir penser à rien d'autre. Je suis resté éveillé toute la nuit. Le lendemain, je ne pensais plus du tout à mes études. Après avoir beaucoup prié, j'ai décidé d'aller voir mon évêque et de commencer à remplir mon dossier missionnaire. Janine ne m'a jamais demandé de partir en mission pour elle. Elle m'aimait assez pour me faire part de ses convictions et ensuite me donner la possibilité d'orienter le cours de ma vie. Nous avons fait tous les deux une mission et nous avons été scellés plus tard dans le temple. Le courage de Janine et son engagement dans sa foi ont fait toute la différence dans notre vie à tous les deux. Je suis certain que nous n'aurions pas trouvé le bonheur dont nous jouissons sans sa foi forte au principe de servir le Seigneur en premier. Elle est un exemple merveilleux de justice. Grand-mère Whittle et Janine m'ont aimé suffisamment pour me faire part de leur conviction que les ordonnances de l'Évangile et servir notre Père Céleste m'apporteraient le bonheur. Ni l'une ni l'autre ne m'ont forcé ni ne m'ont fait honte de qui j'étais. Elles m'aimaient simplement et elles aimaient notre Père Céleste. Toutes les deux savaient qu'ils pouvaient tirer davantage de ma vie que moi tout seul. Chacune d'elles m'a aidé avec amour à trouver le chemin d'un plus grand bonheur. Comment chacun d'entre nous peut-il être d'une si grande influence? Nous devons veiller à aimer sincèrement les personnes que nous voulons aider dans le sens du bien afin qu'elles puissent commencer à acquérir de la confiance en l'amour de Dieu. Pour beaucoup dans le monde, la première difficulté pour accepter l'Évangile est d'acquérir la foi en un Père Céleste qui les aime parfaitement. Il est plus facile d'acquérir cette foi lorsque nous avons des amis ou des membres de la famille qui nous manifestent ce même genre d'amour. Leur donner confiance en votre amour peut les aider à développer leur foi en l'amour de Dieu. Puis, par votre communication aimante et attentionnée, et en faisant part des leçons que vous avez apprises, des expériences que vous avez eues, et des principes que vous avez suivis pour trouver des solutions à vos difficultés, vous leur apporterez des bienfaits. Montrez que vous vous intéressez sincèrement à leur bien-être Ensuite, rendez votre témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez les aider en vous appuyant sur les principes et la doctrine. Encouragez les personnes que vous aimez à chercher à comprendre ce que le Seigneur veut qu'elles fassent. Une façon de le faire consiste à leur poser des questions qui les font réfléchir et puis à leur donner suffisamment de temps, des heures, des jours, voire des mois ou même plus, pour y réfléchir et trouver par elles-mêmes les réponses. Vous devrez peut-être les aider à apprendre à prier et à reconnaître les réponses à leurs prières. Aidez-les à savoir que les Écritures sont une source vitale pour recevoir et reconnaître les réponses. Ainsi, vous les aiderez à se préparer, à saisir les occasions et à affronter les difficultés à venir. Le dessein de Dieu consiste à réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. C'est fondamental pour tout ce que nous faisons. Quelquefois, nous sommes tellement absorbés par des choses que nous trouvons fascinantes. Nous sommes tellement submergés par des responsabilités banales que nous en perdons le vue, le dessein de Dieu. En basant constamment sa vie sur les premiers principes, on acquiert la compréhension de ce qu'on doit faire. Et l'on produit davantage de fruits pour le Seigneur et plus de bonheur pour nous-mêmes. Lorsque l'on base sa vie sur les principes de base du plan du salut, on s'attache davantage à communiquer aux autres ce que l'on connaît parce qu'on comprend l'importance internelle des ordonnances de l'Évangile. On exprime ce que l'on sait d'une manière qui incite ses amis à vouloir être affermis spirituellement. On aide ses proches à vouloir s'engager et obéir à tous ses commandements et à prendre sur eux le nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous que la conversion des personnes n'est qu'une partie de l'œuvre. Cherchez toujours à fortifier la famille. Enseignez avec en vue l'importance de la famille scellée au temple. Pour certaines familles, cela peut prendre des années. Comme cela a été le cas pour mes parents, de nombreuses années après mon baptême, mon père s'est fait baptiser. Et plus tard, ma famille a été scellée au temple. Mon père a été scelleur au temple, et ma mère y a servi avec lui. Quand nous avons la vision des ordonnances de scellement du temple, nous participons à l'édification du royaume de Dieu sur terre. Rappelez-vous que l'amour est le fondement puissant pour influencer les personnes que vous voulez aider. L'influence de grand-mère Whittle et celle de ma femme Janine aurait été négligeable si je n'avais pas su qu'elle m'aimait et qu'elle voulait que j'aie ce qu'il y a de mieux dans la vie. En plus de les aimer, faites-leur confiance. Dans certains cas, il peut sembler difficile de faire confiance, mais cherchez le moyen de le faire. Les enfants de notre Père Céleste peuvent faire des choses extraordinaires quand ils sentent qu'on a confiance en eux. Tous les enfants de Dieu, dans cette condition mortelle, ont choisi le plan du Sauveur. Ayez confiance que lorsque l'occasion se présentera, ils referont la même chose. Présentez les principes qui aident les personnes que vous aimez à avancer résolument sur le chemin menant à la vie éternelle. Rappelez-vous que nous progressons tous ligne par ligne. Vous avez suivi le même processus pour votre propre compréhension de l'Évangile. Continuez à présenter l'Évangile dans sa simplicité. Votre témoignage personnel de l'expiation de Jésus-Christ est un outil puissant. Les ressources qui l'accompagnent sont la prière, le livre de Mormon et les autres écritures. et votre engagement vis-à-vis des ordonnances de la prêtrise. Tout ceci facilitera la direction de l'esprit sur lequel il est d'une importance cruciale de s'appuyer. Pour être efficace et faire ce qu'a fait le Christ, concentrez-vous sur ce principe de base de l'Évangile. L'expiation de Jésus-Christ nous permet de devenir plus semblables à notre Père Céleste pour que nous puissions vivre ensemble éternellement dans notre cellule familiale. Il n'y a pas de point de doctrine plus fondamental que l'expiation de Jésus-Christ sur lequel s'appuie notre œuvre. En toute occasion, témoignez du Sauveur et du pouvoir de son sacrifice expiatoire. Utilisez les Écritures qui parlent de lui et dites pourquoi il est le modèle parfait pour chacun dans la vie. Il vous faudra étudier diligemment. Ne soyez pas si occupés par les choses banales au point de ne pas apprendre la doctrine. Avec une base doctrinale solide, vous pouvez être une source puissante pour contribuer à faire connaître les vérités essentielles dont d'autres personnes ont désespérément besoin. Nous pouvons servir au mieux notre Père Céleste en exerçant une influence bénéfique sur les autres et en leur rendant service. Le plus grand exemple qui ait vécu sur terre est notre Sauveur, Jésus-Christ. Son ministère terrestre n'était qu'enseignement, service et amour pour autrui. Il côtoyait des gens que l'on jugeait indignes de sa compagnie. Il les aimait chacun. Il discernait leurs besoins et leur enseignait l'Évangile. Il nous invite à suivre son exemple parfait. Je sais que son Évangile est le chemin qui mène à la paix et au bonheur dans cette vie. Puissions-nous nous rappeler de faire comme lui. Puissions-nous manifester notre amour, notre confiance et notre connaissance de la vérité aux personnes qui n'ont pas encore reçu la lumière éclatante de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci, frères. Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter « Seigneur, merci pour le prophète ». Après le cantique, Robert D. Hales du Collège des Apôtres nous adressera la parole. Il sera suivi de Claudio D. Zivic et de W. Craig Zwick des 70. Vous assistez à la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Brothers and sisters, of all the lessons,
frères et sœurs, de toutes les leçons que nous tirons de la vie du Sauveur, aucune n'est plus claire ni plus puissante que celle de l'obéissance. Lors du conseil prémortel dans les cieux, Lucifer s'est rebellé contre le plan de notre Père Céleste. Ceux qui ont suivi Lucifer ont mis un terme à leur progression éternelle. Prenez garde à qui vous suivez. Ensuite, Jésus a exprimé son engagement d'obéir en disant, « Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne à jamais. » Tout au long de son ministère, il subit des tentations, mais n'y prêta pas attention. En effet, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par son obéissance, le Sauveur a expié nos péchés, rendant possible notre résurrection et préparant le chemin pour que nous retournions auprès de notre Père Céleste, qui savait que nous commettrions des fautes en apprenant l'obéissance dans la condition mortelle. Lorsque nous obéissons, nous acceptons son sacrifice parce que nous croyons que par le sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile et aux commandements de l'Évangile. Jésus nous a enseigné à obéir dans un langage simple et facile à comprendre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et venez et suivez-moi. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous prenons sur nous le nom du Christ et concluons avec Dieu l'alliance d'être obéissant jusqu'à la fin de notre vie. Chaque dimanche, nous renouvelons cette alliance du baptême en prenant la Sainte Cène et en témoignant que nous sommes disposés à respecter les commandements. Nous demandons pardon pour toute pensée, sentiment ou action qui n'est pas conforme à la volonté de notre Père Céleste. Et nous nous repentons en cessant de désobéir et en recommençant à obéir. Et nous montrons notre amour pour lui. En vivant l'Évangile, nous progressons dans notre compréhension de l'obéissance. Nous pouvons parfois être tentés de pratiquer ce que j'appelle une obéissance d'homme naturel, dans laquelle nous rejetons la loi de Dieu à la faveur de notre propre sagesse et de nos propres désirs ou notre popularité. Parce qu'elle est pratiquée à grande échelle, cette perversion de l'obéissance réduit la part des principes de Dieu dans notre culture et dans nos lois. Parfois, les membres peuvent se livrer à une obéissance sélective, affirmant aimer et honorer Dieu, alors qu'ils font un tri parmi les commandements et les enseignements, et les conseils de ses prophètes, qu'ils suivront pleinement. Certains obéissent de manière sélective parce qu'ils ne peuvent pas percevoir toutes les raisons d'un commandement. Tout comme les enfants ne comprennent pas tout le temps les raisons des règles de leurs parents. Mais nous savons toujours pour quelles raisons nous suivons les prophètes. Parce que cette Église est l'Église de Jésus-Christ et que c'est le Sauveur qui dirige ses prophètes dans toutes les dispensations. Quand notre compréhension s'approfondit et que notre obéissance s'intensifie, nous prenons conscience du rôle essentiel du libre arbitre. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, par trois fois, il adressait cette prière à son Père céleste. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu n'allait pas outrepasser le libre arbitre du Sauveur. Cependant, il a miséricordieusement envoyé un ange pour fortifier son Fils bien-aimé. Le Sauveur a subi une autre épreuve au Golgotha, où il aurait pu ordonner à des légions d'anges de l'enlever de la croix. Mais il a fait le choix d'endurer docilement jusqu'à la fin et d'achever son sacrifice expiatoire, bien que cela signifia de grandes souffrances et la mort. Une obéissance spirituelle mûre est l'obéissance du Sauveur. Elle est motivée par un véritable amour de notre Père céleste et de son Fils. Lorsque nous obéissons de plein gré, comme l'a fait notre Sauveur, nous chérissons les paroles de notre Père céleste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais. Et lorsque nous nous présenterons devant notre Père céleste, nous espérons entendre, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Exercer notre libre arbitre pour obéir, c'est choisir de nous efforcer de faire notre devoir en poursuivant notre route, quelles qu'en soient les conséquences. Cela demande de la maîtrise de soi et cela nous apporte à nous et par notre exemple à ceux qui nous entourent la confiance, le bonheur éternel et une sensation d'épanouissement. Et cela comprend toujours un profond engagement à soutenir les dirigeants de la prêtrise et à suivre leurs enseignements et leurs conseils. Devant le choix d'obéir ou non, il est toujours utile de se souvenir des conséquences de ces choix. Lucifer et ses partisans comprenaient-ils les conséquences du rejet du plan de notre Père céleste? Si oui, pourquoi ont-ils fait un choix aussi terrible? Nous pourrions nous poser une question similaire. Pourquoi y en a-t-il parmi nous qui décident de désobéir alors qu'ils savent quelles sont les conséquences éternelles du péché? Les Écritures fournissent une réponse. La raison pour laquelle Caïn et certains des enfants d'Adam et Ève ont décidé de désobéir est qu'ils aimaient Satan plus que Dieu. Notre amour du Sauveur est la clé d'une obéissance à la manière du Sauveur. En nous efforçant d'être obéissants dans le monde d'aujourd'hui, nous déclarons notre amour et notre respect de tous les enfants de notre Père céleste. Cependant, il est impossible à cet amour d'autrui de modifier les commandements de Dieu qui nous ont été donnés pour notre bien. Par exemple, le commandement « Tu ne tueras point, il ne fera rien de semblable » est fondé sur une loi spirituelle qui protège tous les enfants de Dieu, même les enfants à naître. Une longue expérience nous montre que lorsque nous ignorons cette loi, cela se solde par une tristesse incommensurable. Pourtant, beaucoup croient qu'il est acceptable de mettre fin à la vie d'un enfant à naître pour des raisons de préférence ou par commodité. Justifier la désobéissance ne change pas la loi spirituelle ou ses conséquences, mais conduit à la confusion, à l'instabilité, à l'errance sur des routes étranges et au chagrin. En tant que disciples du Christ, nous avons l'obligation sacrée de soutenir ses lois et ses commandements et les alliances que nous avons contractées. En décembre 1831, certains frères ont été sollicités pour aider à apaiser les sentiments hostiles qui s'étaient développés à l'égard de l'Église. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète les a guidés d'une façon inhabituelle et même surprenante. Je cite, « Confondez vos ennemis, invitez-les à vous rencontrer, tant en public qu'en privé. Qu'ils produisent donc leurs moyens de défense contre leur Seigneur. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et si quelqu'un élève la voix contre vous, il sera confondu lorsque je le jugerai bon. C'est pourquoi gardez mes commandements. Ils sont vrais et dignes de foi. » Fin de citation. Les Écritures sont pleines d'exemples de prophètes qui ont appris les leçons de l'obéissance par leurs propres expériences. Joseph Smith était informé des conséquences s'il cédait aux pressions de son bienfaiteur, ami et secrétaire, Martin Harris. Suite aux supplications de Martin, Joseph a demandé au Seigneur la permission de lui prêter les 116 premières pages manuscrites du livre de Mormon pour que Martin puisse les montrer à sa famille. Mais le Seigneur a dit à Joseph de refuser. Martin a supplié Joseph de poser de nouveau la question au Seigneur. Après la troisième demande de Joseph, le Seigneur a permis que 5 personnes précises voient le manuscrit par une alliance extrêmement solennelle. Martin s'est engagé à respecter cet accord. Quand il est arrivé chez lui et qu'on a fait pression sur lui, il a oublié son serment solennel et a permis à d'autres personnes de voir le manuscrit, avec pour résultat qu'à la suite d'un stratagème, il lui a été subtilisé. En conséquence, Joseph a été réprimandé par le Seigneur et la permission de continuer de traduire le livre de Mormon lui a été refusée. Joseph a souffert et se repentit d'avoir transgressé en cédant aux pressions de son entourage. Après quelque temps, Joseph a eu l'autorisation de reprendre son travail de traduction. Il avait appris une leçon importante sur l'obéissance qui lui a servi le reste de sa vie. Le prophète Moïse constitue un autre exemple. Lorsque, par obéissance, il a pris une femme éthiopienne, Marie et Aaron ont parlé contre lui. Mais le Seigneur les a réprimandés en disant, « Je parle à Moïse bouche à bouche. » Le Seigneur a utilisé cet incident pour instruire les membres de l'Église dans notre dispensation. En 1830, Hiram Page a affirmé qu'il recevait des révélations pour l'Église. Le Seigneur l'a corrigé et a enseigné aux saints, « Tout comme Aaron, tu seras obéissant aux choses que je donnerai à Joseph, car il les reçoit, tout comme Moïse. » L'obéissance apporte des bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. L'obéissance s'enseigne par l'exemple. C'est par notre façon de vivre que nous instruisons nos enfants. Apprends la sagesse dans ta jeunesse. Oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu. L'obéissance nous rend progressivement plus forts, davantage capables d'endurer fidèlement les épreuves avec le temps. Oui, l'obéissance à Gethsémané a préparé le Sauveur à obéir et endurer jusqu'à la fin au Golgotha. Mes frères et sœurs bien-aimés, les paroles d'Alma expriment les sentiments de mon cœur. Et maintenant, mes frères bien-aimés, je vous ai dit ces choses afin de vous éveiller au sentiment de votre devoir envers Dieu, afin que vous marchiez innocent devant lui. Et maintenant, je voudrais que vous soyez humble et que vous soyez soumis et doux, diligent à garder en tout temps les commandements de Dieu. Je rends mon témoignage spécial que notre Sauveur vit parce qu'il a obéi. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est notre Sauveur. Puissions-nous l'aimer si profondément et croire en lui si pleinement que nous aussi, nous obéirons, nous respecterons ses commandements et nous retournons vivre avec lui pour toujours dans le royaume de notre Dieu. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Un petit garçon s'exerçait au piano quand un vendeur, l'ayant vu à travers la fenêtre, lui demanda « Est-ce que ta mère est là ?» Ce à quoi l'enfant répondit « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Nos 5 enfants jouent du piano et c'est grâce à la motivation de ma femme. Quand le professeur de piano arrivait chez nous, notre fils Adrien s'enfuyait et se cachait pour ne pas avoir sa leçon. Mais un jour, quelque chose de merveilleux se produisit. Il commença à tant aimer la musique qu'il continua à s'exercer tout seul. Si nous pouvions parvenir à ce même niveau dans notre conversion, ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux d'avoir, sans que personne ne nous le rappelle, le désir profond de respecter les commandements et d'avoir la conviction ferme qu'en suivant le bon chemin, nous recevrons les bénédictions promises dans les Écritures. Il y a des années, ma femme, notre fille, Evelyne, une amie de la famille, et moi visitions le parc national des Arches. Une des arches les plus célèbres s'appelle l'Arche délicate. Nous décidâmes d'escalader la montagne pendant environ 2 kilomètres pour arriver jusqu'à l'arche. Nous commençâmes notre ascension remplie d'enthousiasme, mais après avoir marché pendant quelque temps, elles avaient besoin de se reposer. Motivé par mon désir d'atteindre le sommet, j'ai décidé de continuer seul. Sans prêter attention au chemin que je devais prendre, je suivis un homme qui était devant moi et qui semblait avancer avec grande assurance. Le sentier devint de plus en plus difficile, à tel point que je devais sauter d'un rocher à l'autre. Étant donné la difficulté, j'étais persuadé que les femmes qui m'accompagnaient n'arriveraient jamais au bout. Tout d'un coup, je vis l'arche délicate. Mais à ma grande surprise, je vis qu'elle se trouvait dans une zone qui m'était inaccessible. Très contrarié, je fis demi-tour. J'attendis impatiemment jusqu'à ce que je les retrouve. Ma première question fut « Est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à l'arche ?» Elles me répondirent joyeusement que oui. Elles m'expliquèrent qu'elles avaient suivi les panneaux indicateurs et qu'en étant attentives et en faisant des efforts, elles étaient parvenues à leur destination. Malheureusement, j'avais pris le mauvais sentier. Ce jour-là, je reçus une grande leçon. Combien de fois pensons-nous prendre le bon chemin alors que nous nous laissons entraîner par les tendances du monde? Posons-nous continuellement la question de savoir si nous mettons en pratique la parole de Jésus-Christ. On trouve dans le livre de Jean un enseignement merveilleux. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette analogie nous montre le rapport très étroit et transcendant qui existe avec Jésus-Christ et l'importance qu'il accorde à chacun de nous. Il est la racine et le tronc qui nous apporte l'eau vive, la sève qui, en nous nourrissant, nous permet de produire beaucoup de fruits. Jésus-Christ nous a instruits de telle façon que nous, les branches, nous qui dépendons de lui, nous ne sous-estimions jamais la valeur de ses enseignements. Il y a des erreurs qui peuvent être graves, et si nous ne les corrigeons pas en temps voulu, elles risquent de nous éloigner définitivement du droit chemin. Si nous nous repentons et acceptons la remise en cause, ces expériences nous permettront de devenir humbles, de changer et de nous rapprocher une fois de plus de notre Père Céleste. Nous voyons dans l'un des moments les plus dramatiques de la vie de Joseph Smith, le prophète, un exemple de ce concept. Par cette expérience que Frère Hales a mentionnée, le Seigneur nous a donné un enseignement précieux concernant les principes que nous devons garder à l'esprit tout au long de notre vie. Cela s'est passé quand Martin Harris a perdu les 116 pages traduites de la première partie du Livre de Mormon. Après s'être repenti de ne pas avoir suivi la recommandation de Dieu, le prophète reçut la révélation qui se trouve à la section 3 des Doctrines et Alliances. D'après les versets 1 à 7, je vais dégager trois principes dont nous devons toujours nous souvenir. Premièrement, on ne peut pas faire échouer les œuvres, les desseins et les intentions de Dieu. Nous ne devons pas craindre les hommes plus que Dieu. Nous devons constamment nous repentir. Au verset 13, le Seigneur nous enseigne quatre choses qu'il ne faut jamais faire. Mépriser les recommandations de Dieu. Violer les promesses extrêmement sacrées qui ont été faites devant Dieu. Nous fier à notre propre jugement. Nous vanter de notre sagesse. Je prie pour que nous ne perdions pas de vue le sentier de manière à toujours être contactés aux cieux, afin que les courants du monde ne nous emportent pas. Si l'un d'entre vous arrive au point où il abandonne la voie du Seigneur, à quelque endroit que ce soit de cette voie, il éprouvera avec de grands remords le chagrin d'avoir méprisé les recommandations de Dieu, d'avoir violé les promesses extrêmement sacrées faites devant Dieu, de s'être fié à son propre jugement ou de s'être vanté de sa propre sagesse. Si tel est votre cas, je vous exhorte à vous repentir et à revenir sur le droit chemin. Un petit-fils a téléphoné un jour à son grand-père pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il lui a demandé quel âge il a. Il lui a répondu qu'il venait d'avoir 70 ans. Le petit-fils réfléchit quelques instants, puis lui a demandé « Papy, est-ce que tu as commencé à compter à partir de 1 ?» Pendant leur enfance et leur jeunesse, les gens pensent qu'ils ne vieilliront jamais. L'idée de la mort ne prend jamais racine. Ça, c'est pour les gens très très âgés et c'est dans quelques siècles. Mais le temps passe, les mois et les saisons se succèdent, les rides apparaissent, l'énergie n'est plus ce qu'elle était. Les visites chez les médecins deviennent plus fréquentes et ainsi de suite. Le jour viendra où nous reverrons tous notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie pour qu'en cette occasion sacrée et sublime, nous puissions le reconnaître grâce à la connaissance que nous avons de lui et pour avoir suivi ses enseignements. Il nous montrera les marques dans ses mains et ses pieds. Nous nous retrouverons dans une étreinte durable et pleurerons de joie d'avoir suivi sa voie. Je témoigne aux quatre coins de la terre que que Jésus-Christ vit. Il nous lance cette exhortation. Écoutez aux nations de la terre et entendez les paroles de ce Dieu qui vous a fait. Puissions-nous avoir la capacité de saisir, d'écouter, de comprendre et d'interpréter correctement le message de ce Dieu qui nous a fait, pour que nous ne nous égarions pas de sa voix. C'est ma supplique, au nom de Jésus-Christ. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
Je me joins à vous, mes frères nouvellement appelés des 70, pour vous soutenir et exprime mon appréciation et mon amour à Elder Callister. Il y a 41 ans, je me mettais au volant d'un semi-remorque de 18 roues, accompagné de ma femme Jane et de notre bébé Scotty. Nous transportions un lourd chargement de matériaux de construction à travers plusieurs États. À cette époque, il n'y avait pas d'obligation de mettre de ceinture de sécurité ni d'installer des sièges pour enfants. Ma femme tenait notre cher petit dans ses bras. Sa réflexion, nous sommes vraiment hauts par rapport au sol, aurait dû me donner une idée de son appréhension. Alors que nous effectuions notre descente dans l'historique Col d'Honneur, un tronçon abrupt de la route, la cabine de la motrice s'est remplie brusquement et de façon inattendue une épaisse fumée. On voyait mal et nous avions du mal à respirer. Avec un gros chargement, les freins seuls ne suffisent pas à ralentir rapidement. J'essayais frénétiquement d'arrêter en utilisant le frein moteur et en rétrogradant les vitesses. Juste au moment où je me garais sur le côté de la route, mais avant d'être complètement arrêté, ma femme a ouvert la portière de la cabine et a sauté à l'extérieur avec notre bébé dans les bras. Je les regardais, impuissants, tomber par terre. Dès que j'ai pu arrêter le semi-remorque, j'ai sauté de la cabine en fumée. Paniqué, j'ai couru au milieu des rochers et de la végétation et je les ai serrés dans mes bras. Les avant-bras de Jan et ses coudes étaient écorchés et saignaient. Mais grâce à Dieu, notre fils et elle respiraient. Je les ai tenus serrés pendant que la poussière retombait sur le bas-côté de la route. Une fois que les battements de mon cœur se sont calmés et que j'ai pu reprendre mon souffle, je me suis écrié « À quoi diable pensais-tu donc ? Tu te rends compte du risque que tu as pris ? Vous auriez pu vous tuer ?» Elle m'a regardé, des larmes coulant sur ses joues souillées par la fumée, et m'a dit quelque chose qui m'a transpercé le cœur et qui résonne encore à mes oreilles. J'essayais juste de sauver notre fils. Je me suis rendu compte, alors, qu'elle pensait que le moteur était en feu, qu'elle avait peur que le camion explose et que nous mourions. De mon côté, je savais que c'était une défaillance électrique, dangereuse mais pas fatale. J'ai regardé ma bien-aimée qui caressait doucement la tête de notre petit garçon et je me suis demandé quel genre de femme ferait une chose aussi courageuse et totalement irrationnelle. Cette situation aurait pu être aussi dangereuse sur le plan émotionnel que notre problème de moteur. Heureusement, après avoir ruminé pendant un temps raisonnable, chacun de nous, croyant que l'autre avait tort, nous avons fini par exprimer les émotions qui étaient à la base de nos échanges rageurs. Le fait que nous ayons exprimé notre amour et notre peur pour la sécurité l'un de l'autre a empêché l'incident dangereux de mettre à mal notre précieux mariage. Paul a lancé cet avertissement. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ces paroles résonnent avec une certaine pureté. Que signifie pour vous l'expression « aucune parole mauvaise » ? Nous connaissons tous régulièrement des sentiments fortement chargés de colère, les nôtres ou ceux d'autres personnes. Nous avons vu des colères incontrôlées éclater dans les lieux publics. Nous les avons ressentis comme une espèce de court-circuit électrique émotionnel lors d'événements sportifs, dans l'arène politique ou même chez nous. Les enfants, par parlent parfois à leurs parents qu'ils aiment avec une langue aiguisée comme un rasoir. Des conjoints qui ont vécu les expériences de la vie les plus riches et les plus tendres perdent la vision et la patience qu'ils doivent avoir l'un envers l'autre et élèvent la voix. Chacun d'entre nous, bien qu'enfant de l'alliance d'un Père céleste aimant, a eu à regretter d'avoir sauté la tête la première du haut du piédestal de son estime de soi. Et nous avons parlé avec des mots cinglants avant de comprendre une situation selon le point de vue de l'autre. Nous avons tous eu l'occasion d'apprendre à quel point les mots destructeurs peuvent rendre une situation dangereuse et fatale. Une lettre récente de la première présidence dit clairement « L'évangile de Jésus-Christ nous enseigne à aimer et à traiter tout le monde avec gentillesse et civilité, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. » Quel rappel magistral que nous pouvons et devons participer à la poursuite du dialogue civil, surtout quand nous voyons le monde depuis des perspectives différentes. Salomon conseille dans les Proverbes, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Une réponse douce consiste à donner une réponse argumentée avec des paroles réfléchies provenant d'un cœur humble. Cela ne veut pas dire que nous ne parlons jamais franchement ou que nous transigeons sur la vérité doctrinale. Des paroles qui peuvent être fermes dans le contenu peuvent être douces dans l'esprit. Le livre de Mormon contient un exemple frappant de discours positif à propos d'un désaccord conjugal. Les fils de Saria et de Léhi avaient été renvoyés à Jérusalem pour se procurer les plaques d'airain et n'étaient pas revenus. Saria croyait que ses fils étaient en danger. Elle était très en colère et avait besoin d'accuser quelqu'un. Écoutez l'histoire vue par son fils Néphi. Car elle pensait que nous avions péri dans le désert et elle avait aussi fait des reproches à mon père, lui disant qu'il était un visionnaire, disant « Voici, tu nous as conduits hors du pays de notre héritage et mes fils ne sont plus et nous périssons dans le désert. » Maintenant, réfléchissons à ce que Saria pouvait penser. Elle était très inquiète à l'idée que ses fils, qui étaient querelleurs, retournent là où la vie de son mari avait été menacée. Elle avait échangé sa belle maison et ses amis contre une tente dans un désert lointain, alors qu'elle était encore en âge d'avoir des enfants. Poussée par ses craintes au point de craquer, c'était comme si Saria sautait héroïquement, si ce n'est rationnellement, du haut d'un camion lancé à toute vitesse pour tenter de protéger sa famille. Elle faisait part à son mari de soucis légitimes, avec des paroles de colère, de doute et de reproche, un langage que tout le genre humain semble étonnamment bien connaître. Léhi, le prophète, entendait la crainte qui était à la base de la colère de sa femme. Il a alors donné une réponse maîtrisée dans le langage de la compassion. Tout d'abord, il a admis la vérité des choses telles qu'elle les voyait. Et mon père lui avait parlé, disant, « Je sais que je suis un visionnaire, mais si nous étions restés à Jérusalem, nous aurions péri avec mes frères. » Puis son mari a répondu aux craintes qu'elle entretenait concernant la sécurité de leur fils, selon ce que le Saint-Esprit lui avait sans doute témoigné en disant, « Mais voici, j'ai obtenu une terre de promission, et pour cela je me réjouis. Oui, je sais que le Seigneur délivrera mes fils des mains de Laban. » Et c'est dans ce genre de langage que mon père consola ma mère à notre sujet. Il est aujourd'hui particulièrement nécessaire que les hommes et les femmes cultivent le respect mutuel au milieu de différences importantes de croyances et de comportements et de profonds fossés d'objectifs opposés. Il est impossible de connaître ce qui nourrit nos pensées et notre cœur, ni même de comprendre complètement le contexte des épreuves et des choix auxquels chacun d'entre nous fait face. Cependant, que deviendraient les paroles mauvaises dont parle Paul si notre point de vue comportait en premier de l'empathie pour l'expérience de l'autre? Pleinement conscient des limites que sont mes imperfections et mes côtés mal dégrossis, je vous supplie de vous entraîner à poser cette question avec un regard indulgent sur l'expérience d'autrui. À quoi pensez-vous? Lorsque la cabine de notre camion s'est remplie de fumée, ma femme a agi de la façon la plus courageuse qu'elle pouvait imaginer pour protéger notre fils. Moi aussi, j'ai agi en protecteur quand j'ai contesté son choix. Ce qui est frappant, c'est ce qui importait, ce n'était pas qui avait le plus raison. Ce qui importait, c'était de s'écouter l'un l'autre et de comprendre le point de vue de l'autre. C'est quand on est disposé à regarder par les yeux de l'autre que les mauvaises paroles se transforment en communication d'une grâce. L'apôtre Paul comprenait cela, et chacun d'entre nous, à son niveau, peut aussi le comprendre. Cela peut ne pas changer ou résoudre le problème, mais la possibilité la plus importante est de voir si communiquer une grâce peut nous changer. Je rends humblement témoignage que nous pouvons communiquer une grâce au moyen d'un langage compatissant quand le don du Saint-Esprit, une fois cultivé, imprègne notre cœur de sollicitude pour les sentiments des autres et le contexte dans lequel ils vivent. Cela nous permet de transformer des situations dangereuses en des lieux saints. Je témoigne que le Sauveur nous aime, qu'il regarde au cœur, qu'il sait ce que nous pensons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
We are deeply grateful.
Nous remercions tous les orateurs qui se sont exprimés cet après-midi, ainsi que le chœur de l'Institut d'OREM pour la musique qu'il a interprétée. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du chœur du tabernacle aura lieu demain matin, de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Quentin L. Cook, du Collège des Douze Apôtres, qui sera notre dernier orateur. Après son discours, le chœur clora la réunion en chantant « Tout au sommet des monts ». Ensuite, Linda K. Burton, présidente générale de la Société de secours, fera la prière de clôture. Frère Cook.
Hastening family history and temple work.
Il est essentiel pour le salut et l'exaltation des familles de hâter l'œuvre du temple et de l'histoire familiale. Peu avant de succomber à un cancer en 1981, l'écrivain controversé William Saroyan a dit à la presse « Tout le monde doit mourir, mais j'ai toujours cru que j'aurais droit à une exception. Et maintenant quoi ? Le maintenant quoi lorsqu'on est en face de la mort dans cette vie et le maintenant quoi lorsqu'on contemple la vie après la mort sont au cœur des questions que l'âme auxquelles répond si admirablement l'évangile rétabli de Jésus-Christ à travers le plan du bonheur de notre Père. Dans cette vie, nous rions, nous pleurons, nous travaillons, nous jouons, nous vivons, puis nous mourrons. Job s'est demandé si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. La réponse est un oui catégorique, grâce au sacrifice expiatoire du Sauveur. Une partie du préambule à la question de Job est intéressante. L'homme né de la femme, sa vie est courte, il naît, il est coupé comme une fleur. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Il pousse des branches comme une jeune plante. Le plan de notre Père concerne la famille. Plusieurs de nos passages d'écriture les plus poignants reprennent l'analogie de l'arbre avec ses racines et ses branches. Dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament, Malachie utilise cette analogie pour décrire clairement la seconde venue du Sauveur. En parlant des hautains et des méchants, il explique qu'ils seront embrasés comme du chaume et que le jour qui vient ne leur laissera ni racine ni rameau. Malachie termine son chapitre par la promesse réconfortante du Seigneur. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. À l'aube du rétablissement, en 1823, Moroni a souligné de nouveau ce message dans ses premières instructions au jeune Joseph Smith. Les chrétiens et les juifs du monde entier acceptent les paroles d'Élie dans l'Ancien Testament. Il était le dernier prophète à détenir le pouvoir de scellement de la prêtrise de Melchisédek avant l'époque de Jésus-Christ. Le retour d'Élie a eu lieu le 3 avril 1836 dans le temple de Kirtland. Il a déclaré qu'il accomplissait la promesse de Malachie. Il a remis les clés de la prêtrise pour le scellement des familles dans cette dispensation. La mission d'Élie est facilitée par ce qu'on appelle parfois l'esprit d'Élie, qui, comme l'a enseigné Russell M. Nelson, est une manifestation du Saint-Esprit qui rend témoignage de la nature divine de la famille. Le Sauveur a insisté sur la nécessité du baptême. Il a enseigné, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le Sauveur s'est lui-même fait baptiser pour montrer l'exemple. Qu'en est-il des personnes décédées qui n'ont pas été baptisées? Le 11 octobre 1840, à Nauvoo, Violette Kimball écrivit une lettre à son mari, Heber C. Kimball, qui était en mission en Grande-Bretagne avec d'autres membres des 12. La conférence générale d'octobre avait eu lieu quelques jours auparavant. Je cite des extraits de la lettre de Violette. Nous avons eu la conférence la plus grande et la plus intéressante que nous ayons jamais eue depuis que l'Église est organisée. Le président Smith, Joseph, a ouvert un sujet nouveau et glorieux, celui de se faire baptiser pour les morts. Paul en parle dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 29. Joseph en a reçu une explication plus complète par révélation. Il dit que les membres de cette Église ont la possibilité de se faire baptiser pour toute leur parenté décédée avant l'avènement de cet Évangile. En faisant cela, nous agissons comme leurs représentants et leur donnons la bénédiction de pouvoir se lever à la première résurrection. Il dit que l'Évangile leur sera prêché en prison. Violette ajouta, je veux me faire baptiser pour ma mère. N'est-ce pas un enseignement merveilleux? Fin de citation. La doctrine essentielle de l'union de la famille est venue ligne sur ligne et précepte sur précepte. Les ordonnances par procuration sont au cœur de ce qui unit une famille éternellement, du lien entre les racines et les branches. La doctrine de la famille en relation avec l'histoire familiale et l'œuvre du Temple est claire. Dans ses premières instructions révélées, le Seigneur a parlé de baptême pour vos morts. Nous avons une obligation doctrinale vis-à-vis de nos propres ancêtres. C'est parce que l'organisation des cieux est fondée sur la famille. La première présidence a recommandé aux membres, particulièrement aux jeunes et aux jeunes adultes seuls, de mettre l'accent sur l'œuvre du Temple et les ordonnances pour les noms de leur famille ou les noms d'ancêtres de membres de leur paroisse et de leur pieux. Nous devons être connectés à nos racines et à nos branches. Oui, l'idée d'être réunis dans le royaume éternel est merveilleuse. Wilford Woodruff a dit que Joseph Smith, le prophète, a vécu suffisamment longtemps pour poser les fondements de l'œuvre du Temple. Il a déclaré, toute dernière fois qu'il s'est réuni avec le Collège des 12, c'est quand il leur a donné leur dotation. Après le martyre du prophète, les saints ont terminé le Temple de Nauvoo et le pouvoir de scellement a été utilisé pour bénir des milliers de membres fidèles avant l'exode dans les montagnes de l'Ouest. 30 ans plus tard, au moment de l'achèvement du temple de Saint-Georges, Brigham Young a expliqué l'importance éternelle des ordonnances salvatrices qui étaient enfin accessibles aux vivants comme aux morts. Wilford Woodruff l'énonce ainsi. Il y a peu de principes que le Seigneur a révélés qui m'aient donné plus de joie que celui de la rédemption de nos morts. À savoir que nous aurons notre père, notre mère, notre femme et nos enfants avec nous, en famille, au matin de la première résurrection et dans le royaume céleste. Ce sont des principes grandioses. Ils valent tous les sacrifices. Qu'il est merveilleux de vivre notre époque. Cette dispensation est la dernière, et nous pouvons ressentir l'accélération de l'œuvre du salut dans tous les domaines qui concernent les ordonnances salvatrices. Aujourd'hui, nous avons des temples un peu partout dans le monde pour offrir ces ordonnances salvatrices. C'est aussi une grande bénédiction d'aller au temple pour nous ressourcer spirituellement, pour avoir la paix, la sécurité et pour être dirigés dans la vie. Moins d'un an après avoir été appelé à l'apostolat, le président Monson a consacré la bibliothèque généalogique du temple de Los Angeles. Il a dit, nos ancêtres décédés attendent le jour où vous et moi irons faire les recherches nécessaires pour préparer le chemin et également aller dans la maison de Dieu et accomplir cette œuvre qu'ils ne peuvent accomplir. Le 20 juin 1964, lorsque Frère Monson a prononcé ses paroles de consécration, il n'y avait que 12 temples en fonction. Pendant la période où le président Monson a servi au sein des conseils dirigeants de l'Église, 130 de nos 142 temples en fonction ont eu leur première consécration. Ce n'est rien moins qu'un miracle de voir l'accélération de l'œuvre du salut à notre époque. 28 temples supplémentaires ont été annoncés et sont des diverses étapes de leur réalisation. 85% des membres de l'Église vivent à moins de 300 km d'un temple. La technologie de l'histoire familiale a aussi énormément progressé. En mars 1995, Howard W. Hunter a déclaré « Nous avons commencé à utiliser l'informatique pour accélérer l'œuvre sacrée des ordonnances pour les morts. » Le Seigneur lui-même a axé le rôle de la technologie. Mais nous ne sommes que sur le seuil de ce que nous pouvons faire avec ces outils. 19 ans après cette déclaration prophétique, l'accélération de la technologie est presque incroyable. S'adressant à moi, une femme de 36 ans, mère de jeunes enfants, s'est exclamée, imaginez un peu, que nous sommes passés des lecteurs de microfilms dans les centres dédiés d'histoire familiale à la possibilité de m'asseoir dans ma cuisine avec un ordinateur pour faire de l'histoire familiale une fois que mes enfants se sont endormis. Frères et sœurs, nos maisons sont désormais nos centres d'histoire familiale. L'œuvre du temple et de l'histoire familiale n'est pas uniquement faite pour nous. Songez aux gens qui sont de l'autre côté du voile, attendant les ordonnances salvatrices qui les libéreront de la servitude de la prison spirituelle. Une prison est définie comme étant un état de confinement, de captivité. Il est possible que ceux qui sont en captivité se posent la question que s'est posée William Saroyan. Maintenant, quoi? Une sœur fidèle a raconté une expérience spirituelle extraordinaire survenue dans le temple de Salt Lake City. Dans la salle de confirmation, après avoir fait l'ordonnance de confirmation par procuration, elle a entendu « Les prisonniers seront libérés ». Elle a éprouvé une grande urgence vis-à-vis de ceux qui attendaient leur baptême et leur confirmation. En rentrant chez elle, elle a cherché dans les Écritures la phrase qu'elle avait entendue. Elle a trouvé la déclaration qu'a faite Joseph Smith à la section 128 des Doctrines et Alliances. Que votre cœur se réjouisse et soit dans l'allégresse. Que la terre éclate en chants. Que les morts chantent des hymnes de louange éternelle au roi Emmanuel, qui a ordonné, avant que le monde fût, ce qui nous permettrait de les racheter de leur prison, car les prisonniers seront libérés. La question qui se pose est, que devons-nous faire? Le prophète Joseph a recommandé que nous présentions dans le temple des annales de nos morts qui seront entièrement dignes d'être reçues. Les dirigeants de l'Église ont lancé à la génération montante l'appel retentissant à montrer la voie dans l'utilisation de la technologie pour ressentir l'esprit d'Élie, pour rechercher leurs ancêtres et pour accomplir les ordonnances du temple en leur faveur. Une grande partie de la charge d'accélérer l'œuvre du salut des vivants et des morts sera portée par vous, les jeunes. Si les jeunes de chaque paroisse non seulement vont au temple pour faire des baptêmes pour leurs morts, mais travaillent aussi avec leurs familles et les autres membres de la paroisse pour fournir des noms pour les ordonnances qu'ils accomplissent, ils seront grandement bénis, eux et l'Église. Ne sous-estimez pas l'influence des morts pour vous aider dans vos efforts et la joie de rencontrer un jour ces personnes que vous servez. La bénédiction d'unir notre famille à une portée éternelle et presque dépasse l'entendement. 51% des adultes membres de l'Église dans le monde n'ont actuellement pas leurs deux parents dans la section arbre familial du site internet de l'Église Family Search. Les quatre grands-parents de 75% de nos membres n'y figurent pas. N'oubliez pas, nous ne pouvons pas être sauvés sans nos racines et nos branches. Les membres de l'Église doivent obtenir ces informations vitales et les enregistrer. Nous avons enfin la doctrine, les temples et la technologie pour que les familles accomplissent cette œuvre glorieuse de salut. Je suggère que nous fassions la chose suivante. Les familles pourraient avoir une réunion arbre familial. Cet effort devrait être récurrent. Chacun apporterait les noms de famille qu'il a, les anecdotes et les photos qu'il a, y compris les objets que les grands-parents et les parents chérissent. Nos jeunes sont enthousiastes à l'idée d'apprendre ce qu'a été la vie des membres de leur famille, leur origine et la façon dont ils ont vécu. Beaucoup ont vu leur cœur se tourner vers leur père. Ils aiment les histoires et les photos et ils ont la connaissance technique nécessaire pour numériser et téléverser ces histoires et ces photos dans Arbre familial et rattacher les documents aux ancêtres afin de les conserver pour toujours. Bien sûr, l'objectif principal est de savoir quelles ordonnances restent à accomplir et répartir les tâches pour l'œuvre essentielle du temple. Le livret « Ma famille » peut être utilisé pour l'enregistrement des données familiales, des histoires et des photos qui peuvent être alors téléversées sur Arbre familial. Les engagements familiaux et les attentes familiales devraient avoir la priorité afin de protéger notre destinée divine. Pour ceux qui cherchent des façons plus fructueuses d'employer le jour de sabbat pour toute la famille, l'accélération de cette œuvre est une véritable mine d'or. Une mère raconte toute rayonnante que son fils de 17 ans se met à l'ordinateur le dimanche après l'église pour faire de l'histoire familiale et explique que son fils de 10 ans aime entendre les histoires de ses ancêtres et voir leurs photos. Cela a été une bénédiction pour la famille tout entière de ressentir personnellement l'esprit d'Élie. Nos précieuses racines et nos précieuses branches doivent être nourries. Jésus-Christ a donné sa vie sous forme d'une expiation par procuration. Il a résolu la question suprême posée par Job. Il a vécu la mort pour toute l'humanité, chose qu'elle ne pouvait pas faire par elle-même. Cependant, nous pouvons accomplir les ordonnances par procuration et devenir véritablement des sauveurs sur la montagne de Sion pour notre famille, afin de pouvoir être exaltés ensemble, aussi bien que sauvés. Je rends témoignage du sacrifice expiatoire du Sauveur et de la certitude du plan de notre Père pour nous et notre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dear and beloved Father in heaven,
notre cher Père céleste, bien-aimé, nous nous réjouissons du privilège et de la bénédiction que c'était de nous rassembler comme une grande famille sous la direction de notre prophète bien-aimé et de ses conseillers et de tous les autres prophètes voyants révélateurs que nous soutenons et aimons de tout notre cœur. Et nous prions que, comme nous avons levé la main pour les soutenir aujourd'hui, nous puissions aller de l'avant aujourd'hui et faire véritablement les choses qu'on nous a conseillé de faire en justice. Nous nous réjouissons et nous te remercions pour ton Fils bien-aimé, son sacrifice expiatoire, et nous engageons à lui obéir, à nous montrer notre amour pour lui. Notre remercions pour ce plan de salut. Aide-nous à être reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ, amen.
This has been a broadcast of the 180.
Vous venez d'assister à une diffusion de la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur combiné de l'Institut de religion d'Orem en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.